Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Église centrafricaine exprime sa tristesse. Une quinzaine de personnes, dont un prêtre, ont péri dans une attaque menée par un groupe armé contre une église de Bangui. Ce jeudi, des barricades ont été érigées dans les rues désertes de la ville. En Syrie, le nombre des réfugiés a dépassé les 2 millions, auxquels s'ajoutent plus de 6 millions de déplacés internes. Le Vatican avertit la communauté internationale qu'on ne peut armer et entraîner des combattants tout en prétendant chercher la paix. Une réunion se tiendra ce vendredi sous les auspices du Conseil pontifical. Au Pakistan, Asia Bibi attend toujours du fond de sa prison d'être fixé sur son sort. Son procès a une nouvelle fois été reporté. Les magistrats de la cour d'appel auraient peur de subir des représailles de la part des groupes islamistes radicaux. De l'ascension endeuillée en Centrafrique au lendemain de l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima, non loin du quartier musulman de Bangui. Des milliers de déplacés avaient trouvé refuge dans cette église. Les assaillants sont arrivés dans deux 4x4 blancs et à moto et ils ont lancé des grenades dans l'enceinte de l'église. Dans plusieurs quartiers du centre, ce jeudi, des jeunes en colère contre les musulmans ont rassemblé au milieu de la route des blocs de béton, des pneus en feu et des morceaux de bois. Selon l'AFP, ces jeunes reprochent aux soldats africains de la MISCA d'avoir protégé les assaillants. La tension était remontée depuis quelques jours dans ce quartier. Trois personnes avaient ainsi été décapitées dimanche en marge d'un match de foot organisé à Bangui pour tenter de réconcilier chrétiens et musulmans. La crise centrafricaine a pris un tournant interconfessionnel depuis quelques mois entre ex-rebelles Séléka dominante musulmane et miliciens chrétiens anti-Balaka, alimentant les craintes d'une partition du pays. Ces violences interconfessionnelles ont contraint de nombreux musulmans à fuir la capitale. L'abbé Mathieu Bondobo du diocèse de Bangui, actuellement en étude à Rome, a pu communiquer avec ses confrères de la capitale centrafricaine. Il regrette que les groupes de la MISCA n'aient pas eu le temps d'intervenir.
Disons que depuis que ce conflit-là a commencé, pratiquement toutes les paroisses de la capitale sont devenues un site, disons, d'accueil de toutes ces personnes qui ont fui leur maison parce qu'ils ne se trouvaient plus en sécurité. Hein. Et donc la paroisse Notre-Dame de Fatima aussi, il y avait beaucoup de personnes qui se trouvaient là, en refuge, disons-le comme ça. Dommage que toutes ces paroisses ne sont pas protégées. Hein, ne sont pas protégées. Alors s'il y a eu cette attaque, c'est une preuve matérielle que les paroisses qui accueillent beaucoup de personnes ne sont pas protégées.
Est-ce que les troupes françaises ou les troupes de l'Union africaine peuvent assurer une protection pour les paroisses? Est-ce qu'elles sont intervenues dans le passé pour ce genre de situation?
Ce que j'ai appris hier, c'est qu'à 1 kilomètre de la paroisse Notre-Dame de Fatima, il y a les troupes de la MISCA qui sont basées là. Et dès que le conflit, l'affrontement a commencé, l'attaque a eu lieu à la paroisse Notre-Dame de Fatima, les nouvelles qui me sont parvenues est que ces troupes-là ont été contactées pour intervenir le plus vite possible. Ces troupes de la MISCA ont dû attendre des heures pour intervenir. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai, ils sont là-bas, ils sont à Bangui, en Centrafrique, pour aider la population, pour protéger, parce que là, depuis le coup d'État, le pays n'a plus une armée républicaine, l'armée n'existe plus. Et donc, notre confiance est basée sur ces troupes-là. Ce sont elles-là qui nous protègent. Et donc, notre souhait est que quand le peuple se trouve en danger, d'intervenir le plus rapidement possible. À dire la vérité, leur présence est salutaire. Sangaris, les troupes françaises et les troupes de la MISCA, leur présence en Centrafrique est salutaire. Mais à mon avis, il y a encore beaucoup à faire.
L'abbé centrafricain Mathieu Bondobo, interrogé par Cyprien Viette. À l'initiative de la Fondation Aide à l'Église en détresse, un carme italien, le père Aurelio Gazzera, missionnaire en Centrafrique depuis plus de 20 ans, a témoigné ces jours derniers à Rome devant des diplomates européens accrédités près le Saint-Siège. Selon lui, l'Union européenne peut faire beaucoup plus que les États, car elle n'a pas de lien direct avec le gouvernement centrafricain. Elle devrait obliger les autorités centrafricaines à assumer leurs responsabilités et à prendre soin de la population. Depuis l'indépendance en 1960, pas une seule école n'a été construite par l'État. Les motivations de cette crise, a-t-il martelé, ne sont pas de nature religieuse, mais politique et économique. Pour preuve, des milliers de musulmans sont réfugiés dans les paroisses et les missions catholiques. « En Syrie, la population meurt de faim et de misère. Le cardinal Robert Sarra invite le monde à se réveiller de sa torpeur. Le cardinal Sarra est le président du Conseil pontifical Corunum qui organise ce vendredi à Rome une réunion de coordination sur la Syrie en présence du cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et du nonce apostolique à Damas, Mgr Mario Zenari. 25 organismes catholiques d'assistance et des évêques de la région ont été invités. Dans une interview au site Vatican Insider, le cardinal Sarra estime que Genève 2 ne peut signifier l'échec de la stratégie de paix en Syrie. Il faut, dit-il, retrouver le courage d'une action conjointe, surtout de la part des grandes puissances comme les États-Unis et la Russie, et de tous les pays du Moyen-Orient impliqués. Selon les données fournies par le cardinal Sarra, plus de 9 millions de Syriens ont besoin d'aide humanitaire, et 60% des hôpitaux ont été détruits ou sont inutilisables. De plus, le conflit syrien pèse lourdement sur les pays voisins. Parmi les participants à la rencontre de vendredi au Vatican, le père Paul Karam, nouveau président de Caritas Liban. Les réfugiés continuent d'affluer et de traverser en masse la frontière libanaise, ce qui entraîne de graves problèmes dans ce pays qui compte 4 millions d'habitants. Le père Paul Karam.
Surtout, il y a pas mal d'enfants de familles syriennes qui naissent sur le territoire libanais. Ces enfants ne sont ni inscrits au Liban ni inscrits en Syrie. Ça, c'est un autre problème qui pourrait aussi avoir des conséquences sur ce que le Liban a déjà vécu il y a tant d'années avec la présence palestinienne dans des camps au Liban. Le deuxième fait, c'est le problème de sécurité, où il y a une augmentation dans les délinquances, les vols. Certaines municipalités ont demandé qu'il n'y a pas de circulation au niveau des réfugiés durant la nuit, parce que c'est durant cette période-là qu'il y a pas mal de vols qui se font. L'autre aspect aussi, c'est l'aspect sanitaire. Beaucoup viennent dans nos centres médicaux, le Caritas, et nos cliniques mobiles qui circulent dans plusieurs régions. Il y a une demande croissante des médicaments et des consultations de la part des réfugiés. Et dans notre contexte libanais, les réfugiés syriens sont partout. Ils ne sont pas concentrés dans des camps comme en Jordanie ou bien en Turquie, ce qui favorise davantage cette délinquance et en même temps qu'il n'y a pas de suivi, une surveillance de la part du gouvernement qui a en même temps des capacités assez limitées à ce niveau-là.
À combien est estimé le nombre de réfugiés syriens aujourd'hui au Liban?
Selon la HNCR des Nations Unies, ils ont publié récemment un nombre officiel de ceux qui sont enregistrés au Liban et le nombre a atteint déjà le 1 million. Mais concrètement et selon nos sources, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas inscrits, on a dépassé, je pense, les 1,5 million, sans compter les à peu près 500 000 Palestiniens, et à peu près les 400 000 travailleurs étrangers qui sont sur le territoire. Donc, on est au seuil de la moitié de la population libanaise, ce qui menace la démographie libanaise qui est basée sur cet aspect de confessionnalisme et de cette entente garantie par la Constitution pour tous.
Le père Karam, président de Caritas Liban, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. Et en Irak, 4000 morts depuis le mois de janvier et encore 60 personnes tuées au cours des dernières heures à travers le pays. La série d'attaques a frappé Bagdad, la capitale, mais aussi les provinces septentrionales de Kirkouk et de Ninive. À quelques kilomètres de là, plus au nord, se trouve le Kurdistan irakien. Autrefois instable, cette région autonome d'Irak semble un havre de paix pour les musulmans comme pour les chrétiens. C'est même devenu une zone refuge pour les Irakiens et même les Syriens qui fuient les violences. Aujourd'hui, plus de 30 000 chrétiens y vivent, contre 1 500 familles en 2003. Une situation qui sera ce vendredi au cœur d'une audience au Vatican. Le pape reçoit en effet le président du Kurdistan irakien Mahmoud Barzani. On en parle avec Mgr Aban Alkas, évêque du diocèse d'Ahmadiyya Zako.
Un grand respect, je peux dire, pour Mahmoud Barzani et un grand respect aussi pour le Saint-Père parce que aussi lui a son rôle dans ce qui se passe dans le Moyen-Orient et surtout en Irak. Il n'y a pas vraiment une stabilité, il n'y a pas une paix stable. C'est une bagarre, une lutte entre les politiciens, chacun pour soi et le désordre. La rencontre de Barzani avec le Saint-Père, c'est une aide pour nous qui vivons au Kurdistan. Il y a une simplicité, il y a une humilité, il y a aussi un grand respect. Le Saint-Père va lui poser des questions, c'est lui qui aussi va lui répondre et pour mettre beaucoup de fois les points sur les i.
Le Kurdistan, c'est vraiment une région épargnée par les violences en Irak aujourd'hui.
Vraiment, il y a une exception. Ce peuple a souffert et il continue à souffrir. Si vous comparez ça à ce qui se passe au Kurdistan, je peux dire qu'il y a une grande différence. je ne peux pas dire que c'est un paradis que là où nous vivons, mais toujours, il y a ce qui est une liberté et puis il y a des compagnies étrangères et il y a quelque chose de palpable qu'on voit au cœur du temps. Celui qui veut faire quelque chose de bien, il peut étudier, il peut être un universitaire, il y a beaucoup de commerçants. Et celui qui veut, qui aime être ici, il y a une chance toujours pour avoir un boulot et puis travailler.
Monseigneur Aban Elkas, évêque au Kurdistan irakien. Après deux années de mobilisation, le comité de Un de nous a exprimé sa profonde déception face à une commission européenne sourde à ses demandes. Mercredi, au dernier jour de son mandat, la commission Barroso a opposé son veto contre cette initiative citoyenne, la plus grande pétition de l'histoire des institutions européennes, qui réclamait l'arrêt du financement de la recherche sur l'embryon. Jean-Baptiste Cocagne.
L'initiative citoyenne européenne est inscrite dans le traité de Lisbonne. Cette démarche de démocratie participative, si elle rassemble 1 million de citoyens, permet de soumettre un sujet à la discussion au Parlement. Le projet est contrôlé en amont par la Commission avant d'être ouvert aux signatures. Soutenu officiellement par 2 millions de personnes en Europe, la pétition « Un de nous » demandait l'arrêt du financement de toute pratique détruisant des vies humaines avant la naissance, autrement dit de la recherche sur l'embryon. Pour expliquer son veto, l'exécutif européen affirme que les décisions du Parlement européen et du Conseil de l'Europe permettent déjà de prendre des précautions en matière de recherche sur l'embryon humain. Mais pour les signataires, ce veto est non seulement contraire aux exigences éthiques et démocratiques, il est aussi illégitime et antidémocratique. Le comité de citoyens annonce que la procédure n'est pas close, il envisage déjà des recours, même si les chances d'aboutir sont incertaines, notamment auprès de la Cour de justice de Luxembourg, qui a reconnu le respect dû à la vie humaine dès la conception. Reste qu'en attendant, la commission continuera à financer des pratiques biotechnologiques non éthiques et à financer l'avortement dans les pays en développement, y compris dans des pays où il est pénalement interdit.
Amertume et déception également au Pakistan. La première audience en appel du procès d'Asia Bibi n'a pas eu lieu. Elle a été reportée encore une fois, sans véritable motif. Aucune autre date n'a été fixée. Cette jeune chrétienne du Punjab, mère de 5 enfants, a été arrêtée en juin 2009 pour blasphème et condamnée à mort en novembre 2010 pour avoir bu un verre d'eau dans le même puits que ses amies musulmanes. Depuis février, le procès a subi 4 renvois pour divers motifs. Dans le passé, des juges ayant acquitté des chrétiens considérés coupables de blasphème ont été tués. Mercredi, de nombreux Pakistanais ont assisté à Lahore, un office célébré par l'archevêque de Canterbury en mémoire des victimes des attentats commis contre les chrétiens. Le séjour de Justin Welby a pour objectif de montrer le soutien de l'église anglicane à la minorité chrétienne du Pakistan et de sensibiliser les hommes politiques musulmans à la difficile situation des chrétiens dans cette partie du monde. Les responsables du CELAM, Conseil épiscopal latino-américain, ont achevé leur visite annuelle au Vatican. Ils ont rencontré le pape François mardi. Leur entretien a porté sur de nombreux dossiers sensibles tels que le phénomène de l'immigration et l'éclatement de la famille. Le Saint-Père les a exhortés à mettre en pratique les résolutions prises lors de la 5e Assemblée générale du CELAM qui s'est tenue en 2007 à Aparecida. Les explications de Xavier Sartre.
Cette assemblée s'était achevée par la publication d'une feuille de route, un consensus sur 120 pages subdivisées en 3 parties et 10 chapitres, proposant des stratégies pastorales pour relancer la foi chrétienne dans cette région du monde. La synthèse finale avait été élaborée sous la responsabilité du cardinal Bergoglio, le futur pape François. Un document fondamental pour la mission dans le continent de l'espérance, mais qui reflète le regard prospectif du Saint-Père sur l'évangélisation et dont la valeur dépasse donc largement les limites du continent latino-américain. Ce document, qui a déjà porté des fruits, énumère une série de priorités. La pastorale des prisons, les écoles catholiques, la dignité humaine, les médias, la défense de la région amazonienne, le respect de la culture des populations indigènes, la pauvreté croissante, les inégalités sociales et les migrations, un dossier particulièrement urgent dont les évêques ont beaucoup parlé lors de leur séjour à Rome. Ce jeudi, un groupe de prélats des États-Unis et du Mexique devait être reçu à Washington dans le cadre de leur campagne en faveur d'une réforme de l'immigration. Ils devaient présenter à la Chambre des représentants un message intitulé « C'est le moment d'agir ».
L'Union des supérieurs généraux tient son assemblée générale jusqu'à vendredi à Rome. Objectif, élever le niveau des choix et des décisions, approfondir le concept de tendresse eucharistique, s'intégrer pleinement dans la pastorale des diocèses, se concentrer sur l'envoi en mission et promouvoir un discernement permanent pour vivre son propre charisme en accord avec l'Église universelle. Placée sous le thème « Réveiller le monde », cette assemblée est présidée par le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Adolfo Nicolas. Au cœur de la réflexion, les idées, les indications et les émotions suscitées par la longue rencontre des supérieurs généraux avec le pape François le 29 novembre dernier, qui s'était déroulée dans un climat de franchise et de liberté. Par ailleurs, en vue du synode sur la famille, l'Union des supérieurs majeurs prépare une réflexion et souligne les analogies entre la vie en famille et la vie communautaire des religieux. Selon le père Nicolas, il est urgent de rendre les communautés religieuses plus humaines et chrétiennes et de prendre des décisions évangéliques fondées sur le renouveau et la joie. Et pour terminer, coup de projecteur sur Radio Soleil, une institution en Haïti. Fondée en 1978 avec l'aide de la conférence épiscopale, cette radio, pas comme les autres, a vécu les tribulations de l'île et de ses habitants, très attachés à ses programmes. Elle émet aujourd'hui dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, la capitale. Depuis quelques années, la radio n'est plus seule, puisque Télé-Soleil a vu le jour. Lors du terrible séisme de 2010, les installations de la radio et de la télévision catholique avaient été presque complètement détruites. Mais à l'image du peuple haïtien, Radio Soleil est résiliente et a su renaître de ses cendres. Le frère salésien Hubert Mésidor, directeur de Radio Soleil, revient sur la genèse de Radio Soleil et lance un appel pour que l'on n'oublie pas Haïti et son peuple.
C'est Radio Soleil qui a commencé à motiver les gens, à éduquer les gens pour comprendre la réalité qu'on vit sous la dictature. Et voilà qu'en 1985, on a vraiment détruit tous les équipements de Radio Soleil. Et puis, malgré ça, on a continué à fonctionner. Et en 86, Duvalier est tombé. Et vraiment, c'est Radio Soleil qui a joué un rôle important, disons, dans la chute d'Ed Duvalier.
C'est une radio particulièrement engagée?
Très, très engagée à cette époque, disons. Parce que c'était une époque spéciale. Après 28 ans de dictature, Duvalier père et fils. Et puis, en 86, grâce à Radio Soleil et l'Église en général, Duvalier est parti.
Aujourd'hui, en 2014, est-ce qu'il est facile de travailler comme journaliste en Haïti?
Oui, disons, on a fait beaucoup de progrès en ce sens. On ne peut pas dire que tout est normal, mais il y a une certaine liberté de la presse. On peut émettre ses opinions. Et il y a un message que je voudrais faire passer spécialement. Vous savez, en 2010, il y a eu le grand tremblement de terre en Haïti. Tous les médias étaient fixés sur Haïti. Vraiment, c'était une catastrophe terrible, ce tremblement de terre. Mais après quelques mois, les médias ont tourné le regard sur Haïti. Je voudrais dire aux médias catholiques de ne pas faire comme eux. C'est-à-dire de continuer à regarder Haïti, parce que Haïti souffre beaucoup.
C'est une souffrance supplémentaire de ne plus être exposé médiatiquement?
Exposé médiatiquement, mais pas dans le sens, négatif. Je pense que on peut voir Haïti d'un autre angle. Quand on voit Haïti, c'est un pays qui a une histoire très complexe, très large. Alors, les médias ont tendance à donner seulement, à présenter la misère, à présenter la partie négative quand il y a des violences, des manifestations. Mais Haïti, il y a un peuple qui veut vivre, qui a une espérance, qui a toujours de la joie malgré la souffrance. Donc je crois qu'on peut exposer cet angle-là d'Haïti à tous les autres chrétiens du monde. En Haïti, il y a beaucoup de choses qui marchent. Il y a une église vivante. D'ailleurs, c'est pour ça que le pape François a nommé un cardinal, parce qu'il sait qu'il y a une église vivante, il y a un peuple qui veut vivre, un peuple qui n'a pas peur de vivre.
Le directeur de Radio Soleil, interrogé par Olivier Bonnel. Et à propos d'Haïti, ces chiffres fournis mercredi par les autorités sanitaires du pays, l'épidémie de choléra a fait plus de 8500 morts et infecté plus de 700 000 personnes depuis son apparition en 2010. Et la maladie n'est toujours pas éradiquée. Il y a encore des zones rouges car la situation sanitaire n'a pas changé et le problème de l'accès à l'eau potable n'est pas résolu. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.